Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Du sursis pour Paris et 5 autres métropoles. Les données sanitaires sont inquiétantes, mais le gouvernement veut laisser passer le week-end. Pendant ce temps, l'Inserm lance un appel citoyen pour tester les éventuels vaccins contre le Covid-19. Des médecins généralistes seront chargés du recrutement, vous l'entendrez dans ce journal. Des plaintes en cascade après les propos du polémiste Éric Zemmour sur CNews. Il s'en est pris aux mineurs étrangers isolés. Une enquête est ouverte. Réaction de la LICRA à suivre. Nous nous pencherons ensuite sur la communauté arménienne qui vit dans le Haut-Karabakh, région d'Azerbaïdjan, qui est toujours sous les feux des combats depuis une semaine. Et puis, sur cette enveloppe d'€1 milliard débloquée par Google pour des partenariats avec la presse, l'idée est de dédommager les éditeurs pour l'utilisation de leurs articles. Recherche 25 000 candidats. L'Inserm, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, lance un appel citoyen pour tester un vaccin anti-Covid-19, pour aider les chercheurs. Depuis hier, chacun peut donc s'inscrire sur une plateforme pour participer à des essais cliniques, quel que soit l'âge, l'état de santé et le lieu de résidence. Pour relayer cet appel et pour convaincre, des médecins généralistes seront ambassadeurs auprès de leurs patients. Rencontre avec l'un d'eux grâce à Cécilia Arbona.
Installé depuis 2008 au port Marly dans les Yvelines, le docteur Olivier Saint-Lary mène aussi des recherches dans une unité rattachée au Centre d'épidémiologie et de santé des populations. Dans la course contre la montre, pour mettre au point un vaccin efficace, ce médecin généraliste estime qu'il est de son devoir de sensibiliser sa patientèle pour détecter des volontaires prêts à s'engager dans des essais cliniques.
Acteur de la recherche, c'est effectivement tout l'enjeu là qui se présente à nous. L'idée, c'est effectivement d'être là pour pouvoir aider, informer, profiter peut-être de la connaissance du contexte, de la situation personnelle de chaque patient. Donc oui, de ce point de vue-là, les médecins généralistes, un certain nombre d'entre eux seront ambassadeurs de la recherche sur les vaccins. En aucun cas, il est question de faire du prosélytisme ou du recrutement actif, mais vraiment d'être à l'écoute des patients. Et sur les essais de phase 3 de grande ampleur, les objectifs sont de recruter plus de 3000 patients. Il y aura en tout cas une réflexion en cours sur la possibilité d'inclure des patients dans des cabinets de médecine générale également. En tout cas, on les informe.
Ce médecin francilien prend très à cœur ce rôle d'ambassadeur de l'Inserm sur le terrain. Il a déjà convaincu 2 patients de s'inscrire sur la plateforme Covirevac.
Des tests cliniques importants, disent donc les chercheurs, si l'on souhaite sortir rapidement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait un point sur la situation épidémique du pays. Nous sommes dans une phase d'aggravation depuis plusieurs semaines, a-t-il redit, précisant que depuis plusieurs jours, Paris et sa petite couronne avait atteint les seuils inquiétants. Le gouvernement et les maires de plusieurs métropoles, dont Paris, se donnent jusqu'à lundi pour déclencher l'alerte maximale. Jusqu'à lundi pour Paris, pour Lille, Grenoble ou Lyon, le délai est plutôt d'une dizaine de jours. Nous reviendrons sur ce point hebdomadaire d'Olivier Véran dans le journal de 7h, dans moins d'une demi-heure. Ce matin, Emmanuel Macron s'exprimera sur les séparatismes à propos de son projet de loi longuement préparé. Il sera dans la matinée dans les Yvelines, au Mureaux, avec la difficulté de ne pas cibler seulement l'islam radical. Dans le viseur notamment de l'exécutif, les écoles privées hors contrat et l'instruction à domicile qui feront partie du plan d'action présenté aujourd'hui. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la nouvelle provocation d'Éric Zemmour. Mercredi soir sur CNews, le polémiste a qualifié les mineurs étrangers isolés de voleurs, assassins et violeurs. La justice va enquêter sur les chefs de provocation à la haine raciale et injures publiques à caractère raciste. Mais la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, veut aussi porter plainte. La présidente de sa commission juridique, l'avocate Sabrina Goldman, était hier soir l'invitée du journal de 22h de France Culture.
Bien sûr, nous faisons confiance à la justice, mais je pense qu'aujourd'hui, face à cette énième récidive de propos haineux, de propos racistes de la part d'Éric Zemmour, il n'y a pas qu'à la justice de faire son travail, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment des médias, de prendre leurs responsabilités et de ne plus donner la parole à ce monsieur. il ne faut plus qu'il s'exprime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait très bien, lorsque on invite Éric Zemmour sur un plateau, et a fortiori lorsqu'il est effectivement chroniqueur d'une chaîne et régulièrement invité à s'exprimer, on sait, et c'est même dans ce but-là, parce qu'on sait que ça fait effectivement une certaine audience et qu'on peut en tirer profit et commerce de ses paroles, et bien effectivement, il faut prendre ses responsabilités et se dire qu'on pourra aussi avoir à rendre compte à la justice de donner la parole à ce chroniqueur de haine.
Des propos recueillis hier soir par Stanislas Vazak, la Société des rédacteurs de CNews a réagi hier. Elle condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Éric Zemmour sur leur antenne. Arméniens et Azerbaïdjanais restent sourds à de nouveaux appels au cessez-le-feu. Les combats se sont même intensifiés dans le Haut-Karabakh ces derniers jours. Des combattants djihadistes auraient été déployés, selon le président français Emmanuel Macron. Cette région se situe en Azerbaïdjan, mais elle est peuplée d'Arméniens. Ils ont fait sécession dans les années 90. Une question de survie pour la population sur place, comme l'explique à Nadine Epstein, Yovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France.
Les habitants du Haut-Karabakh, ce sont des Arméniens. 97-98% de la population est arménienne. Quand M. Aliyev dit « je vais nettoyer le Haut-Karabakh des Arméniens », ça veut dire qu'il va nettoyer le Haut-Karabakh de 97-98% de sa population. Et donc la question pour le Karabakh est une question d'existence tout simplement. Très souvent on considère le Haut-Karabakh comme un territoire et c'est de cette manière que l'Azerbaïdjan ou M. Aliyev voit la question. Or il se trouve que sur ce territoire il y a une population de 150 000 personnes qui sont arméniennes et qui disent que nous voulons exister. Mais pour exister, il faut une assise territoriale. Donc M. Aliyev veut nettoyer des Arméniens, et donc reconquérir en tant que territoire, sans la population arménienne. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Nier le droit à l'existence de cette population, c'est de donner la justification que M. Aliyev utilise à chaque moment pour dire « je suis chez moi, je peux entrer chez moi ». Je peux faire ce que je veux avec la population qui vit sur ce territoire qui est le mien et donc la communauté internationale n'a pas son mot à dire. Non, ce n'est pas une question territoriale, c'est une question de droit à l'existence de la population qui vit sur ce territoire.
C'était Yovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France. Nous retrouvons notre envoyé spécial Claude Brouillot sur place dans une demi-heure dans le journal de 7h sur France Culture. Le Haut-Karabakh au centre des débats cette nuit à Bruxelles pour le Conseil européen. Je vous le disais d'ailleurs, selon Emmanuel Macron, président français, 300 combattants djihadistes auraient été déployés dans la région, partie de la Syrie en passant par la Turquie. La Turquie, également au centre du Conseil européen hier soir, avec la question des forages illégaux en mer Méditerranée. Message de fermeté envoyé hier par les dirigeants européens. Ils menacent Ankara de sanctions. Les 27 ont aussi donné leur feu vert hier pour des sanctions contre le régime biélorusse. Une quarantaine de responsables accusés de répression contre l'opposition ou d'avoir falsifié les résultats de la présidentielle en août. Ces responsables voient leurs avoirs gelés. Le président biélorusse contesté, Alexandre Loukachenko, lui, n'est pas sur cette liste. Terminons ce journal par un nouvel épisode de bras de fer entre Google et les grands titres de la presse mondiale. Cet épisode concerne la rémunération de leurs publications. Le géant américain vient d'annoncer le déblocage $1 milliard pour un nouveau programme. Il prendra la forme de partenariat alors que les négociations avec la France sont dans l'impasse. Explication ce matin de Benoît Grossin.
$1 milliard pour tenter d'adoucir le conflit avec les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs articles. Le patron de Google, en parlant d'investissement, assure qu'il s'agit pour ses partenariats d'un engagement financier, que des accords ont déjà été signés pour de nouveaux contenus avec près de 200 titres en Allemagne, au Brésil, en Argentine, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, Der Spiegel, Stern, Die Zeit en Allemagne ou encore Folia au Brésil par exemple. Que d'autres accords sont en cours de négociation avec l'Inde, la Belgique et les Pays-Bas. Le programme intitulé Google News Showcase a également été proposé en France dans le cadre des négociations difficiles sur les droits voisins qui permettent désormais aux éditeurs et agences de presse, selon la loi adoptée en juillet 2019, de réclamer une rémunération pour l'indexation de leurs publications dans le moteur de recherche. Google, sous pression, semble lâcher du lest pour European Publishers Council, Cette organisation, qui représente les intérêts de plusieurs groupes européens, estime que le géant américain contourne la législation pour une négociation équitable en dictant les termes et conditions de sa contribution à la production de nouveaux contenus en ligne.
C'était Benoît Grossin pour France Culture. Une rafale record a été enregistrée cette nuit à Belle-Île-en-Mer, 186 km/h au niveau de la pointe du Talus. Ce matin, 80 000 personnes sont privées d'électricité dans le Morbihan, en Bretagne toujours, mais aucun gros dégât n'est à déplorer a priori. La tempête Alex s'éloigne peu à peu vers le sud-est, laissant encore pas mal de pluie ce vendredi sur tout le territoire. Il fait ce matin 10 degrés à Brest, 11 à Strasbourg, 13 degrés à Paris et à Bordeaux, 18 dans la matinée à Nice.